au 1047 Outaouais.
Vous écoutez l'Outaouais maintenant.
L'Outaouais maintenant. Avec Michel Lapointe.
Le premier ministre François Legault tiendra un point de presse demain à 17h pour dévoiler le plan de déconfinement pour le Québec. Sûrement un point de presse qui arrive à temps si on se fait une étude réalisée par Christine Gervais, professeure au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. L'étude démontre qu'une bonne majorité des gens interrogés souffrent de dépression et que la situation ne va pas en s'améliorant. On fait le point avec l'auteur de l'étude, Christine Gervais. Bonjour.
Bonjour.
Fort intéressant cette étude. Comment vous avez procédé et qui sont les gens interrogés et sur combien de temps a duré cette étude-là?
Oui, alors l'étude réaction, ça signifie récit d'enfants et d'adolescents sur la COVID-19, a démarré dès le premier grand confinement, donc au mois d'avril 2020. Rapidement, on s'est mobilisé avec des collègues, puis on était vraiment intéressés à voir comment cette période exceptionnelle était vécue par les jeunes Québécois et leurs parents. Donc, on a interrogé 200 enfants âgés entre 7 ans, et 17 ans lors du premier temps de mesure, lors d'entrevues, et leurs parents, eux, ont rempli des questionnaires en ligne. Donc, on les a rencontrés à 3 reprises pendant le grand confinement du mois d'avril, à l'été, donc au mois de juillet, ensuite au début de la deuxième vague au mois de novembre dernier, et nous venons de débuter le quatrième temps de mesure, donc qui va se dérouler tout au long du mois de mai.
Qu'est-ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant, depuis le début, là, quand vous analysez l'étude? Qu'est-ce qui vous a peut-être frappé davantage?
Je vous dirais, le plus grand constat qui ressort, bien, premièrement, c'est qu'on a réussi à rejoindre majoritairement des familles qui vivent dans des contextes assez favorisés, donc avec des parents qui sont éduqués, des revenus assez élevés. Donc, c'est important de le mettre en contexte quand on regarde ces résultats-là. Mais ce qui ressort, c'est que les parents ont fait un travail incroyable pour protéger leurs enfants des effets de la pandémie. Donc, on avait pendant les 3 premiers temps de mesure des parents qui avaient quand même des symptômes anxieux importants, qui avaient un bien-être bien inférieur aux moyennes habituelles, mais qui mettaient quand même en place un environnement très sécurisant, très stimulant pour leurs enfants, de sorte qu'on avait des enfants et des adolescents qui allaient plutôt bien dans le contexte, donc qui étaient capables de voir des avantages à la situation, qui avaient fait des apprentissages tout au long de la pandémie, surtout au début pendant le premier confinement, qui s'étaient initiés à des nouvelles activités, qui arrivaient à entretenir leurs relations sociales de différentes façons. Puis, avec le temps, on voit tranquillement cet effet-là diminuer. Donc, on a de plus en plus des enfants qui sont eux aussi rendus inquiets, des parents qui sont de plus en plus épuisés, donc la charge parentale qui prend beaucoup de place, les parents qui commencent à avoir des symptômes dépressifs plus importants aussi dans notre quatrième temps de mesure qui est en cours, c'est vraiment quelque chose qui ressort de façon importante. Mmh.
Je vais vous poser une question, il ne faut pas la prendre nécessairement au premier degré, mais en gros, est-ce que c'est des parents qui sont à bout de leurs enfants ou les enfants qui sont à bout de leurs parents ou un mélange des deux?
Je vous dirais qu'il y a un mélange des deux. En fait, la majorité des parents, ils vont tenir à préciser que c'est pas leurs enfants qui les épuisent, c'est le cumul de tout ce avec quoi ils composent, notamment la fermeture des écoles par intermittence, le travail à distance, qui demande vraiment de s'adapter et de se réorganiser, les inquiétudes de leurs enfants aussi. Pour certains enfants, ça prend beaucoup de place, la peur puis l'inquiétude, le soutien académique. Donc, c'est plus l'ensemble du portrait qui devient vraiment demandant pour les parents.
Vous avez remarqué une anxiété autant chez les parents que chez les jeunes. Est-ce que c'est la même anxiété ou c'est une anxiété différente?
Bien, je vous dirais que comme on ne discute pas avec les parents remplissent un questionnaire, donc c'est plus difficile de nuancer cette anxiété-là. Par contre, on sait qu'ils en vivent. Par rapport aux jeunes, là, comme on a vraiment des échanges avec eux, on comprend mieux de quoi est composée cette anxiété-là. Puis là, ce qui ressort vraiment, c'est le retard scolaire, la peur que les difficultés scolaires qui sont vécues cette année les empêchent à atteindre les formations qu'ils veulent, que ce soit entrer au cégep ou certaines professions qui sont très contingentées. Puis aussi, au niveau de la crise environnementale, qui est un peu nourrie par notamment la pollution qu'on fait à travers les masques ou à travers tout le suremballage qui découle de la pandémie. Mmh.
Est-ce que l'aspect désinformation a été un peu touché ou pas du tout là-dedans?
Non, on a questionné les enfants à savoir avec qui ils parlaient de la pandémie, puis à quel point ils s'informaient beaucoup, mais pas l'aspect des informations. Donc, on sait que les jeunes s'informent majoritairement auprès de leurs parents ou de leurs amis, puis la majorité ont une très, très bonne compréhension des mesures puis pourquoi on doit les respecter.
Je vous écoute et je me dis peut-être qu'il y a des jeunes adultes ou des adolescents qui sont peut-être plus conscients que certains adultes quand on regarde les réseaux sociaux.
Sans doute, je vous dirais que nos adolescents, c'est sûr que tu sais, on a une cinquantaine d'adolescents qu'on suit, donc ça ne représente pas nécessairement l'ensemble des adolescents, mais oui, ils sont très, très conscients, ils sont informés, puis ils vont même souligner les incohérences qu'ils observent chez les adultes autour d'eux autres. Donc, tel professeur qui n'aime pas mettre son masque en classe, donc elle l'enlève aussitôt qu'elle peut, même si c'est à moins de 2 mètres de moi, ou les adultes qui, dans le fond, ils veulent pas que nous, on se voit, mais qu'eux se voient quand même, malgré qu'on peut pas. Donc, c'est ça. Donc, oui, tout à fait. Ils ont bien compris et ils nous observent.
Bon, j'ai lu aussi que vous avez réalisé dans cette étude que la détresse n'est pas nécessairement liée au nombre de cas. Elle est liée à quoi, la détresse?
Ce qui ressort en temps 4, c'est le fait de ne pas savoir dans quoi se projeter ou quand est-ce que ça va finir. Donc, c'est vraiment ça. On demande aux parents qu'est-ce qu'ils trouvent le plus difficile actuellement. Puis c'est ça qui ressort parce que quand on regarde la situation épidémiologique, les gens devraient aller mieux présentement. La vaccination est en croissance. Ça va bien, la campagne de vaccination. On atteint nos objectifs. Le nombre de cas est en diminution constante. Les hospitalisations également. Donc, les parents puis les enfants devraient avoir un sentiment d'espoir puis se dire, mon Dieu, c'est presque la fin, mais c'est pas ça qui ressort. Donc, c'est ça qui nous permet, qui nous amène à dire que ça semble pas tant lié avec le nombre de cas que, un, le temps, depuis combien de temps les parents portent cette charge-là, puis deux, vraiment l'incertitude par rapport à ce qui s'en vient, le manque de confiance que ça va réellement finir, au quand, comment.
Donc, on a un peu de la difficulté à voir la fin de la pandémie, là.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui ressort autant chez les enfants. Les plus jeunes ne se rappellent pas c'était comment avant la pandémie. Donc, d'imaginer ça va être comment après, c'est très difficile pour eux. Puis les parents, de plus en plus aussi, doutent qu'il va y avoir une fin. Ils sont pas capables de se projeter dans celle-ci.
Est-ce que c'est inquiétant, les résultats de cette étude-là, quand vous regardez ça?
Bien, c'est préoccupant parce que je me dis, si les gens qui composent avec des conditions les plus favorables depuis un an et demi qu'on est en pandémie, sont rendus avec ce niveau de fatigue, d'épuisement, de manque d'espoir-là pour la suite, on peut imaginer les gens qui composent avec des conditions beaucoup plus difficiles, donc un seul parent ou des revenus insuffisants, des troubles de développement qui font que c'est vraiment très difficile, l'école à distance, par exemple. Mais donc, pour ces familles-là, la charge est plus grande. Puis oui, c'est préoccupant de voir dans quel état on va se retrouver collectivement à la suite de la pandémie.
Justement, quand vous regardez tout ça, avez-vous l'impression que la pandémie va laisser des traces à moyen ou long terme chez certaines ou plusieurs personnes?
Oui, définitivement. Je pense que pour les enfants, ça va être c'est quelque chose de marquant d'avoir vécu cette expérience-là où il y a quelque chose de plus grand que la volonté de leurs parents, que leur volonté à eux qui s'impose dans leur vie, puis qui devient vraiment un élément majeur avec lequel ils doivent composer. Donc, je pense que dans leur représentation de la vie, de l'avenir, ça va devenir une pierre centrale autour duquel ils vont créer le reste. Mais oui, je pense que ça va influencer sur leur trajectoire. Pour les parents, c'est difficile à dire pour l'instant, je vous dirais. On n'a pas assez de données. L'idée, entre autres, de ce quatrième temps de mesure-là, c'est justement d'impliquer les familles dans la préparation de l'après-pandémie. On aimerait ça connaître, c'est quoi leurs besoins, comment ils vont présentement, puis qu'est-ce qui pourrait les aider au sortir de la pandémie. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'avoir un meilleur portrait de leurs besoins, autant des enfants, des adolescents que des parents, pour être capable de mettre en place des services ou des activités qui vont être appropriées.
En terminant, Mme Gervais, avez-vous l'impression ou est-ce que, d'après vous, on a assez de ressources pour venir en aide à ces gens-là après la pandémie?
Bien, je pense que ça va être... on n'aura pas le choix d'en faire une priorité, je vous dirais. Si on ne veut pas avoir un nombre important d'enfants qui ont vraiment des difficultés à l'école ou qui n'arrivent pas à poursuivre leur cursus scolaire, je pense pas qu'on puisse permettre d'avoir une génération complète qui va avoir un 2 ans de retard au niveau scolaire. Donc, je pense que oui, ça va vraiment être une priorité. Le nombre de parents et d'enfants qui mentionnent qu'ils vont avoir besoin d'une aide psychologique à la fin de la pandémie, c'est trop important pour qu'on puisse se dire, on n'a juste pas de ressources. Donc oui, je pense qu'il va falloir en faire une priorité.
Un gros merci. Très intéressant, Mme Gervais.
Et ça m'a fait plaisir que si des gens sont intéressés à s'exprimer sur leurs besoins pour la suite de la pandémie, je les invite à nous écrire à l'adresse réaction avec un S à commercial uqo.ca.
Ben, un gros merci, Christine Gervais.
Ça m'a fait plaisir.
Merci, bonne fin de journée, Christine
Gervais. Bonne fin de journée à vous.
Merci, les professeurs au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais.